des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'ai envie de commencer l'émission en anglais. Hello everyone, have a happy Thursday. Pourquoi je voudrais commencer l'émission en anglais? Parce qu'encore une fois, dans une autre entreprise canadienne, cette fois-ci c'est le CN, hein? Siège social est à Montréal, la nouvelle présidente, elle parle juste anglais. Oh, I'm gonna learn French, I really like French. French is important, I'm gonna learn French. Comment se fait-il qu'au Québec encore, comment se fait-il que dans ce pays-là où on est censé avoir deux langues officielles, il y a encore des gens qui ne parlent pas le français? Je sais pas comment leur faire passer le message, peut-être en leur lançant un très fâché. Ben voyons donc!
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous avez bien sûr entendu parler des fameuses maisons Véro et Louis, des maisons qui accueillent des adultes autistes dans un environnement adapté à leur réalité et à leurs besoins. Mais on avait tous hâte de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur, comment ça se déroule, comment ces gens-là sont accueillis, parce que c'est un milieu de vie, hein, c'est une maison, ils habitent là. On les appelle d'ailleurs les colocs. Ben, on a la réponse à partir d'aujourd'hui. Il y a 5 épisodes de 20 minutes d'une série documentaire qui s'intitule « Un toit pour moi » qui est mis en ligne dans la section véro.tv d'ici tout.tv extra. On va en parler avec nul autre que Véronique Loutier. Bonjour!
Oui, bonjour Sophie!
Bonjour Véronique! J'ai écrit dans le Journal de Montréal il y a quelque temps « Véro m'a fait pleurer » parce que j'avais beaucoup pleuré en regardant votre documentaire sur... Oui, parce que je m'identifiais tout à fait à ce que vous avez vécu et que vous continuez à vivre et que je vis aussi. Donc, on va se parler entre femmes ménopausées. Mais je pourrais aussi écrire dans le journal « Véro m'a refait pleurer » parce que j'ai regardé tous les épisodes de « Un toit pour moi » et j'ai été touchée, bouleversée, émue devant tant d'humanité et devant tant de beauté. C'est vraiment, c'est un beau projet. Et ce que les gens vivent dans les maisons, Véro et Louis, c'est magnifique. Comment vous avez réagi, vous, quand vous êtes assise, puis que vous avez regardé les 5 épisodes?
Ben moi, j'ai pleuré tout le long. j'ai été vraiment bouleversée, émue, parce que faut savoir que le documentaire, il sort sur ma plateforme, puis là, je m'en fais un peu la porte-parole, parce que la vérité, c'est que comme Guylaine Gay est à Big Brother célébrité, normalement, c'est probablement elle qui aurait fait la promo de la nouvelle série, parce que ça parle de la maison, ça parle des résidents, donc c'est ça, c'est vraiment, là, c'est son champ d'expertise à elle. Nous, on voulait pas porter ça, mais en même temps, je veux que les gens la voient, donc ça me fait plaisir d'en parler, mais je veux pas que les gens pensent que c'est mon documentaire ou que j'ai quoi que ce soit à voir dans ça. Alors, j'ai visionné les épisodes, une réalisation de Sabrina Amoum, là, qui a fait un super travail, vraiment sensible, magnifique. Je les ai regardés, puis parce que je les approuvais, et j'ai pleuré beaucoup, beaucoup à chaque fois, pour plein de raisons. D'abord, comme vous le disiez, j'ai pleuré parce que c'est beau, parce que je suis sensible à la réalité des parents de ces résidents-là. C'est pour ça qu'on a bâti la maison, d'ailleurs. Hein. C'était pour les soulager, leur donner un certain espoir que quelqu'un d'autre allait veiller sur leur enfant devenu adulte quand ils pourront plus le faire ou quand ils seront plus là. J'ai été émue par le don de soi des employés, tu sais, que ce soit les éducateurs, les préposés, toute l'équipe de la maison qui est là. C'est un mot bien à la mode, là, puis c'est fatigant des fois les mots galvaudés, mais la bienveillance, là, je pense que le mot s'applique dans le cas de la maison Véro et Louis. Et puis, c'était nous, on n'est pas là au quotidien. T'sais, surtout qu'avec la COVID, on limite les contacts, les entrées, les sorties. Donc, on va à la maison, Louis et moi. On est allé quelques fois là, dans la dernière année, mais on n'est pas là tous les jours sur le plancher. Donc, j'étais contente d'être témoin de moments de vie. Parce que ce qu'on s'imagine dans notre tête, là, c'est que tout ce monde-là va aménager ensemble, puis qu'ils vont être des amis, puis qu'ils vont, tu sais, on voulait qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la vie, mais en même temps, la réalité, c'est que ce sont des personnes autistes qui sont très différentes les unes des autres, qui ont des besoins différents, qui ont des, tu sais, qui ont des manies différentes. Alors, il fallait voir comment tout ce monde-là allait cohabiter. Et ça aussi, c'est venu me chercher quand j'ai vu les 5 épisodes, de voir qui commence à tisser des liens entre eux. Puis là, évidemment, on a arrêté de tourner avant les fêtes. Mais tu sais, ça se poursuit, ça. Là, c'est un travail qui... Le lien, il s'approfondit de jour en jour entre eux, puis entre les membres de l'équipe de la maison aussi. Fait que c'est juste du beau. C'est vraiment très touchant de voir ça.
Absolument. Puis moi aussi, j'ai pleuré tout le long des 5 épisodes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la réalisation, toute l'équipe, ont pas essayé non plus de présenter ça comme étant un long fleuve tranquille. Donc, parmi les colocs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, c'est un très joli mot d'ailleurs, y en a qui s'adaptent plus facilement que d'autres. Et je pense entre autres à Sarah, qui est une des colocs. Ben, c'est plus difficile, même pour les parents de Sarah, de s'adapter, oui, à cette nouvelle réalité-là. Et vous avez pas essayé de le cacher ou d'adoucir les angles. Non, il y a des résidents pour lesquels c'est plus difficile. Et ça, il faut vous rendre hommage à vous puis à toute l'équipe aussi, parce que ça aurait été tellement facile. Je veux dire, c'est Louis qui produit, ça porte votre nom. Ça aurait été facile de dire, bon, ben, on va juste montrer le bon côté. Non, on voit aussi là où ça grince puis là où c'est plus difficile. Ça a dû venir vous toucher aussi, parce que c'est pas évident de montrer le côté moins rose de la situation.
Oui. Mais tu sais, en même temps, ça aurait pas été rendre justice à la réalité de ces familles-là, voilà, puis à leur vie. Tu sais, c'est vrai que parfois c'est difficile. C'est vrai que c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Et ça fait partie. Tu sais, le but de la série, c'est de montrer comment ça se passe créer ce nouveau modèle d'hébergement-là, comment ça se passe l'intégration, c'est quoi les embûches, c'est quoi les bons coups. Donc, ça aurait pas été honnête de pas présenter ça. Cela dit, c'est quand même sensible, c'est très délicat. Donc, évidemment, on a validé à maintes reprises, là, tu sais, avec les parents, que c'était correct. T'sais, on avait l'approbation. Là. Les gens qu'on voit, évidemment, dans le documentaire, les familles sont d'accord.
Bien sûr.
On avait le droit de diffuser ces images-là. Puis moi, quand j'ai regardé les épisodes, ça aussi, ça m'a mis à l'envers, parce que je me disais, aïe, tu sais, pour les parents, là, c'est on le voit que c'est très dur de s'acclimater. En fait, c'est de laisser aller, hein. C'est la confiance. Parce que quand tu t'es occupé toi-même de ton enfant autiste pendant 30, 35 ans, même 50 ans dans certains cas là, de nos résidents, tu sais.
Oui, Christian, il y a 50 ans, oui.
Oui, Christian, 50 ans. Puis il y en a d'autres aussi qui voulaient pas être vus dans la série, mais on a un résident de 60 ans aussi dans la maison.
Ah, oui.
Donc, imagine pour. Oui, son père a 85 ans, je crois. Tu sais, donc, pour ces parents-là, c'est sûr que la question, même s'ils sont contents parce que c'est leur choix, là, tu sais, que leur enfant habite à la maison Véro et Louis, il n'y a personne qui les a obligés, ils étaient sur une liste d'attente. Mais une fois que c'est fait, tu sais, la maman de Sarah qu'on voit dans la série France, elle m'a écrit l'été dernier pour me dire, c'est la première fois que je prends des vacances seule avec mon conjoint. Merci, c'est grâce à la maison. Mais elle était contente, mais en même temps, elle était terrorisée de quitter puis de laisser sa fille là, parce que tu te demandes, tu te dis, oui, ils veulent bien faire tout ça, mais vont-ils être capables de donner les mêmes soins à mon enfant que moi? Est-ce qu'ils vont répliquer ce qu'elle vit à la maison? Puis oui, on essaie de le faire le plus possible, mais en même temps, ils sont 16, tu sais, donc ça peut pas être 100% comme à la maison. Il y a une réalité où il faut s'adapter à vivre en groupe. Donc, c'est de trouver l'équilibre là-dedans, c'est ça le défi, puis je pense qu'on le voit bien dans la série aussi.
Absolument.
Que les éducateurs doivent adapter leurs méthodes selon chaque résident. T'sais, ils peuvent pas agir de la même manière. Puis c'est toute la richesse de l'autisme, mais en même temps, c'est le grand défi. C'est qu'ils sont tellement différents les uns des autres. Il n'y en a pas de mode d'emploi. C'est faut prendre le temps d'écouter, de comprendre puis de s'ajuster surtout.
Alors, ce qui est particulier, donc, évidemment, les maisons Véro et Louise, c'est qu'on le sait, la réalité des personnes autistes au Québec ou des gens qui sont dans le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, c'est que il y a des gens puis des institutions qui sont là, mais seulement jusqu'à 21 ans. À partir de 21 ans, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Il y a comme une espèce de grand trou noir. Et c'est là que les maisons Véro et Louise interviennent. Et c'est toute cette difficulté-là aussi pour les parents de dire, ben, de laisser aller mon enfant. Puis là, on le voit parce que ce sont des gens qui sont autistes, mais Véro, on va se le dire, une raison pour laquelle moi j'ai braillé tout le long pendant la série, c'est que je me dis, c'est ce que tout parent vit à un moment donné. On élève des enfants, on leur donne tout ce qu'on a, puis à un moment donné, il faut les laisser aller. Et c'est sûr que c'est plus difficile quand les enfants sont autistes, mais tout parent est confronté à ça, et ça, c'est pas facile.
Exact. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Tu sais, c'est dur pour nous qui avons des enfants neurotypiques et tout ça, de les voir grandir. Puis bon, tu sais, notre but, c'est de développer leur autonomie. Puis un jour, ils quittent. C'est comme dans l'ordre des choses, mais ça fait mal quand même quand ça arrive. Donc, imagine quand un enfant qui est plus vulnérable, qui a besoin de soins vraiment spécifiques, particuliers, qu'il y a certaines, ça peut être, écoute, rigidité alimentaire, difficulté à s'acclimater au bruit. Il y a la liste est infinie là, de particularités, tu sais, pour les personnes TSA. Donc, c'est sûr que c'est encore plus dur pour ces familles-là, ça, c'est clair. Puis nous, c'est la chose qui nous bouleversait au départ et c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'investir dans cette cause-là. Puis je veux juste préciser une chose, Sophie, c'est que il existe des choses, tu sais, il y a des ressources intermédiaires, il y a des familles d'accueil, il y a des RAC, il y a certaines choses, évidemment, mais l'hébergement permanent adapté, ça n'existait pas.
Parce c'est vrai, la nuance est importante.
Même dans l'architecture de la maison, dans les services offerts à l'intérieur, la programmation, c'est ça qui nous distingue de ce qu'il y avait déjà dans le système, là, dans la société. Il y a les centres de répit aussi, les centres de jour, c'est super important. Nos résidents fréquentent certains de ces centres-là pour aller faire des activités puis socialiser. Donc, je veux pas rien enlever à ça parce qu'il y a des gens déjà qui étaient là, qui le faisaient bien. Puis c'est important aussi de le dire, ça. Donc, nous, on veut pas dire qu'on est les premiers, qu'on est les seuls, puis prendre le crédit. C'est pas ça du tout. C'est juste que nous, on offre autre chose.
Oui. À un moment donné, il y a une discussion extrêmement intéressante où Louis Morissette, donc votre conjoint, dit, tu sais, quand on a commencé là-dedans, on n'avait aucune idée de l'ampleur de ce que c'était. Si on vous avait dit à vous et à Louis, au tout début, vous pensez que c'est un petit projet comme ça, si on vous avait montré vraiment l'ampleur et la difficulté de la chose, est-ce que vous l'auriez fait quand même?
Ah, je sais pas, on aurait peut-être eu le vertige parce que pour moi, là, c'est comme un accouchement. Tu sais, si les femmes savaient à quel point ça fait mal, peut-être qu'il y en a moins.
Mais vous l'avez fait trois fois, ça doit pas être si pénible que ça.
Il y a des affaires qu'on est mieux de pas savoir.
Oui.
Donc, c'est correct aussi qu'on se soit embarqué là-dedans avec de la naïveté puis une certaine. C'est ça, là, tu sais, c'est le juste la réelle volonté d'aider puis de changer les choses. Puis après, ben, tous les problèmes, les embûches, c'est correct, ça fait partie de ça. On peut pas brasser les affaires, puis avancer, puis innover, même, entre guillemets, sans que ça fasse mal, puis apprendre là-dedans. C'est un cheminement, puis c'est vraiment correct, mais c'est vrai qu'on était complètement naïfs au départ. T'sais, on pensait que, ben oui, on va bâtir une maison, puis il y a des gens qui vont nous dire, là, c'est quoi que ça prend dedans, puis ça va être correct, mais mon Dieu, c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça.
C'est plus complexe, oui.
Véro, on va écouter un petit extrait. Je sais que vous êtes pressé par le temps, donc on va écouter un petit extrait, 30 secondes de la bande-annonce de cette série documentaire vraiment bouleversante, Un toit pour moi.
C'est ta chambre!
C'est ma chambre!
Moi, jamais, j'aurais placé Sarah. Je me disais, bon, mais regarde, je vais vieillir, elle viendra au centre d'accueil avec moi.
Ça fait un très gros poids sur les épaules quand on a un enfant qui a des grands besoins. On sait pas qu'est-ce qui va arriver.
Je trouve ça beau de les voir créer des liens ensemble.
On a fait des erreurs, puis on a voulu aller trop vite. C'est un marathon, une fondation, c'est pas un sprint. C'était dur. Et là, aujourd'hui, ça reprend un sens. Ça va la peine.
Il y a une citation à un moment donné, Guylaine Gay, parce que tout est parti évidemment de Guylaine. Elle avait écrit dans son livre, j'espère que quelqu'un va lire ces mots-là, puis elle va avoir l'idée de créer des maisons. Puis c'est vous qui avez lu le livre, puis qui avez décidé de créer les maisons. Elle dit à un moment donné, Guylaine, je pensais pas que ça allait être aussi beau. Ça a dû vous toucher beaucoup quand elle dit ça dans le documentaire, Guylaine.
Ah oui, dans l'épisode 5, dans le dernier épisode, Guylaine va pour la première fois passer vraiment du temps avec tous les résidents parce que, bon, avec les mesures sanitaires, tout ça, ça a été très complexe de pouvoir se réunir tout le monde ensemble. Donc, quand il y a eu une petite accalmie avant Omicron, on a réussi à tourner cette journée-là et Guylaine est allée donc décorer pour Noël avec les 16 résidents puis l'équipe de la maison. Et moi, quand je l'ai vue, elle... regarder ça, et j'ai vu dans ses yeux, parce que je la côtoie de très, très près depuis presque 6 ans maintenant avec la Fondation, j'ai vu dans ses yeux que c'était comme elle le souhaitait. Puis ça, c'est vraiment très émouvant parce que à chacune des étapes, on s'est assuré avec Guylaine que c'était fidèle à ce qu'elle avait en tête, que ça correspondait à ce qu'elle voulait pour les familles d'enfants autistes, parce qu'elle-même en a deux. Donc, elle était autour de la table, là, dans le conseil d'administration, puis dans toutes nos réunions pour la maison. Elle a été de chacun des combats, de chaque étape, et elle était les yeux et la voix des parents d'enfants autistes. Donc, quand elle a dit c'est comme je voulais, puis c'est même encore mieux, c'est sûr que là, on prend un petit 2 secondes pour se dire, bon, ben OK, on a fait quelque chose de pas pire, tu sais. Parce que elle disait toujours ça. Faut que ça sente bon, faut que ce soit lumineux, faut que ce soit chaleureux. Elle revenait toujours avec ces grandes lignes-là. Là, c'était comme son principe de base, tu sais, pour bâtir le projet. Et je sais maintenant, parce qu'elle est allée plusieurs fois à la maison, que ça correspond exactement à ce qu'elle voulait faire. Et ça, c'est un très, très beau cadeau pour nous.
Et le témoignage des différents résidents, des différents colocs, dont on dit que bon, ils ont changé, ils ont pris de la maturité. Je me souviens pas des prénoms de tout le monde, mais cette jeune fille qui est jeune fille à 35 ans là, qui est comme super épanouie et qui est vraiment qui.
Alexandra.
Oui. Oh mon Dieu, je suis tombée en amour avec Alexandra. J'avais envie de l'adopter. Vraiment, c'est plein de beauté. Puis je vous parle Véro, puis j'ai encore les larmes aux yeux. Donc pour tous les gens qui au fil des ans ont donné des sous à la Fondation Véro et Louis, qui ont acheté des tuques différents comme toi, qui ont acheté des chandails différents comme toi, qui ont acheté des t-shirts
de garage,
qui sont venus à vos ventes de garage acheter des cossins de vedettes, ben ça vaut la peine parce que tout cet argent-là va dans une maison de beauté, dans une maison d'amour. Vraiment, c'est un super beau projet, donc merci Véro, c'est vraiment plein d'humanité, plein de vrai, plein de beauté. J'ai été vraiment bouleversée, donc ben juste merci, c'est tout.
J'apprécie, Sophie, cette tribune-là pour en parler parce que le but, c'est justement que le plus de gens possible voient ça. Non seulement les gens qui ont soutenu la Fondation puis qui donnent, mais les gens qui... j'aimerais qu'on mette en lumière la réalité des personnes autistes et de leur famille, puis la bienveillance puis le don de soi des employés qui travaillent auprès de ces gens-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça vaut la peine de voir la série. Puis notre rêve, ben, c'est évidemment d'en ouvrir d'autres en collaboration avec d'autres fondations aux quatre coins de la province. Donc, une petite étape à la fois, ça viendra éventuellement.
Ben oui, c'est drôle. Quand Louis dit, coudon, on va être pogné pour en faire, ben il dit pas ça comme ça, évidemment, mais qu'il dit, ben c'est au début, on s'est dit, on va en faire un, puis là, finalement, on se rend compte qu'il y a tellement de besoins qu'on veut en faire d'autres. Je me disais, hey boy, dans quoi ils sont embarqués, ces deux-là? Mais on espère,
oui, mais
en effet.
On va changer notre façon de faire, là.
Oui, j'espère.
On va faire une avec des fondations locales là, dans différentes régions du Québec. On peut pas bâtir toutes les maisons nous-mêmes, on va devenir complètement fous.
D'accord. Bon, ben merci beaucoup, Véro, d'être venu nous parler aujourd'hui. Véronique Cloutier, donc, qui est à la tête, évidemment, de la Fondation Véro et Louis, et administratrice de cette fondation-là, puis vraiment un documentaire à voir. En plus, le titre est tellement beau, Un toit avec un T pour moi. Merci beaucoup, Véro.